Auguste Bebet, français, qui est extrêmement, enfin, beaucoup traduit en Espagne, adapté. Hein. Et donc ici, nous avons, et donc il publie des études sur les femmes, la physiologie du mariage. Et nous avons ici une citation des 30 beautés de la femme. Il fait référence à la beauté d'Hélène, qui servit pour établir les qualités et les proportions de la beauté parfaite dans l'art. Donc au XIXe siècle, ces 30 beautés ne diffèrent que légèrement des critiques antiques. Et vous pouvez donc constater qu'on n'est pas loin finalement de la beauté des aisselles de Dove. Dans cette conception de la beauté héritée des principes naturalistes, évidemment la jeunesse est valorisée. Les parties du corps liées à la procréation sont privilégiées. Le rond s'oppose au carré, qui résume une constitution masculine anguleuse. Peu à peu, la silhouette en 8 se dessine. Hein, et en revanche, la femme laide est malmenée dans le discours normatif. Elle trahit sa mission principale, donc plaire aux hommes pour se marier, pour perpétuer l'espèce. Et donc, nous avons ici cette citation, hein, entre autres, c'est juste un exemple, de 1846, qui fait de la femme laide. Et donc, je n'ai pas le temps de montrer qu'est-ce que pourrait être une femme laide à l'époque. Eh bien, tout simplement, c'est une femme qui porte... Bon, j'y reviendrai après, peut-être. Donc, on voit que c'est erreur de la nature, anomalie, les termes sont extrêmement forts. Et donc, les manuels de beauté fleurissent au 19e. Livres de recettes maison pour fabriquer des crèmes, du dentifrice. Mais ce sont aussi des livres de santé morale, de cosmétologie. Hein, la femme, pour s'accomplir en tant qu'ange du foyer, doit plaire. Et en même temps, et c'est là toute l'ambiguïté de ce genre de manuels, qui sont extrêmement nombreux, elle doit plaire plutôt par son comportement vertueux. Mais enfin, ce sont quand même des ouvrages qui visent à donner des trucs hein, pour concrètement améliorer sa beauté. Donc on a une abondante littérature autour de El Arte del Tocador, donc ce fameux meuble où ça peut être une pièce aussi, hein, la coiffeuse. Le miroir, élément essentiel de la représentation de la coquetterie féminine, cul du diable à la fin du XVe siècle, révélateur des ravages du temps qui représente la vanité, etc., devient la vitrine d'une féminité tout en accessoires qui fait les délices des dessinateurs. Et dans l'illustration, la révélation de la féminité postiche s'appuie dans un premier temps sur le brouillage que ces artifices hein, exercent dans les correspondances hygiénistes entre laideur et vice, hein, puisque avant il y avait une claire correspondance dans un discours hygiéniste entre un corps dégradé et une dégradation morale. Donc tous les artifices de la beauté sont moqués et sont vus comme étranges et étrangers parce qu'ils vont brouiller cette lecture-là, mais aussi une certaine méfiance pour des artifices qui peuvent, et évidemment, qui brouillent les statuts sociaux, ce qui est une préoccupation dans toute la législation hein, qui va faire la différence entre les prostituées et les non-prostituées, par exemple. Donc il y a un regard satirique, dans un premier temps, sur ces artifices, mais ce regard, finalement, va s'estomper, va disparaître au profit d'une standardisation du corps des femmes. La presse satirique illustrée devient en fait une presse érotique, une proto-érotique, et donc n'a plus ce regard critique. Et on a vraiment une scène, un stéréotype, hein, une scène cliché de ces femmes hein, devant le tocador, qui sont déshabillées, révélées hein, par le regard du dessinateur satirique. Mais, donc quelques exemples sur... sur donc le brouillage, voilà, toutes les femmes se ressemblent. Hein. Dans un premier temps, les dessinateurs dénoncent cette standardisation des corps, mais finalement, cette scène au tocador devient un véritable cliché. On le trouve même hein, dans cette collection, la collection de la BNE des éphémères est très intéressante, et on le trouve même sur des tickets de transport. L'entreprise Omnibus de Oliva. Et cette image est dans l'album d'images de Enrique Passanchis de 1885, album conservé à la BNE. Dans le même temps, les stratégies les plus actuelles pour promouvoir les produits cosmétiques font leur apparition. Parallèlement, donc, le marché de la mode se développe, comme je l'indiquais en introduction. Au XIXe, la bourgeoisie s'affirme par le paraître. Une nouvelle sociabilité bourgeoise implique des changements de tenue. Il convient de s'habiller pour aller à la messe, pour rendre des visites, pour sortir à l'opéra. Enfin, chaque occasion implique une tenue, un code, une gestuelle. Tout cela est décrit aussi dans les manuels d'urbanité qui connaissent un succès très important. L'art du paraître, des changements incessants de tenue pour s'adapter aux circonstances et aux dispositions d'une nouvelle sociabilité bourgeoise copiant les rituels aristocratiques, est une marque de l'élite. Comme le souligne Philippe Perrault, dans Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, l'art du paraître bourgeois constitue un capital symbolique, stratégique, qui permet à la bourgeoisie d'affirmer ses valeurs morales et sociales. Il correspond à l'instauration d'une nouvelle institution, la consommation, dont la fonction distinctive n'est plus seulement basée sur une simple discrimination juridique et économique, le pouvoir d'achat, mais aussi sur une discrimination sociale et culturelle, le savoir d'achat. Et ce qui était donc un capital d'élite va, au fur et à mesure du siècle, au XIXe, devenir un savoir partagé par l'ensemble des classes moyennes, en tout cas. Et donc, ce marché de la mode connaît un essor extrêmement important qu'on voit par plusieurs signes, mais il est néanmoins très difficile de retracer de façon très précise l'évolution des établissements liés à la mode dans la capitale. Bon, néanmoins, on peut faire un petit bilan. Hein. Si on compare, par exemple, la Guía Comercial de Madrid, publicada con datos del Anuario del Comercio de 87, à l'autre édition de 1879. Cette petite comparaison que j'ai faite n'est qu'à titre indicatif, hein, puisque la source n'est pas très fiable, les mêmes rubriques ne sont pas reportées, mais ça nous donne quand même une idée de l'extension hein, de ce genre d'établissement de mode, de leur spécialisation et certainement aussi de leur augmentation. Donc la mode se développe, elle se généralise, elle se démocratise, elle abolit les origines sociales et elle devient une préoccupation donc, pour le mari bourgeois, hein, qui doit, lui, financer les excès de la mode, des traînes, etc. Et dans le même temps, depuis le début du siècle, les accessoires parisiens, qui popularisent des usages jusqu'alors réservés à une élite, prêtent à rire. Et donc circule en Espagne cette gravure, certainement dans la première moitié du 19e siècle, boutique de fesses postiche à Paris. Elle est la copie d'une gravure, hein, c'est donc dans un livre de copie de gravure, donc on se rend compte un petit peu du capital iconographique de l'époque, du capital iconographique populaire, et c'est une vision évidemment drôlatique, démesurée, qui considère les nouveaux articles parisiens comme des effets, comme je disais tout à l'heure, étranges et étrangers. Hein. Il s'agissait peut-être, c'est mon hypothèse, d'une interprétation visuelle du terme « focus », hein, qui désignait familièrement ce rembourrage spécifique. Deux appendices, en particulier en Espagne, sont particulièrement moqués. On sait très bien que la crinoline est l'objet de séries hein, satiriques avec le charivari, hein, dans le charivari, en 1856 avec la crinolomanie. Et en Espagne, comme cette image satirique se développe plutôt dans la deuxième moitié du siècle, c'est la tournure, c'est-à-dire une crinoline réduite hein, au postérieur, qui est moquée. Le polisson et qui devient donc l'objet de pas mal de dessins. Corset et tournure donc, sont les deux éléments qui vont façonner cette silhouette féminine en 8, mais contrairement aux images de la fin du XVIIIe siècle, il y a peu de représentations du corset qui réellement commence à faire corps avec le corps de la femme. Peut-être ça s'explique par une nouvelle technique de lassage du corset en 1840, hein, qui donc met un terme à toutes ces visions assez drôlatiques, ces caricatures, enfin plutôt ces gravures satiriques où on voit des gens qui essayent de tirer sur le corset des femmes et ça donne parfois aussi des estampes grivoises, enfin si le terme, enfin voyez ce que je veux dire. L'art de la parure et la substitution du corps réel par le corps idéal fait perdre de vue donc la lisibilité du corps et un corps silhouette qui incarne pleinement au milieu des années 80 la féminité hein, devient un corps marchandise massivement reproduit. La standardisation du corps féminin représenté se produit également avec la diffusion des revues de mode illustrées qui offrent à leurs lectrices les derniers modèles parisiens. Et de toute façon, il y a une histoire commune entre les livres de gravure de mode et la presse illustrée satirique en particulier. il y a une utilisation des mêmes corps, des mêmes visages. Il y a une ritualisation qui va être commune. Donc là, je vous donne quelques éléments pour un parcours iconographique. Hein, donc on a, début du siècle, donc cet ouvrage sur la mode, donc petite référence à Goya. Et on voit comment, on voit l'avènement hein, de ce corps ritualisé de la cocotte boulevardière, qui ne vient pas comme ça tout seul, hein, mais qui a une histoire iconographique. Et donc apparaît ce corps de la courtisane populaire, hein, la cocotte boulevardière, la carrerista, qui est véritablement le corps du frinéisme. Si ya está pasando tiempo, no?
Si, si me... 4 minutos.
Bien. Et donc, qu'est-ce que c'est cette cocotte boulevardière? Et c'est une figure qui est massivement reproduite à cette période. Mais massivement, c'est extraordinaire. Et c'est une figure donc qui est une espèce de fantasme, une projection de la figure prostituée complètement idéalisée, hein, qui n'est pas celle de la qui vit dans la misère des maisons de prostitution, la Suésperas de Mancebilla, et qui certainement dont le prestige s'explique par une prostitution réelle galopante dans la ville, hein, avec toutes ces femmes qui arrivent dans la capitale et qui vivent très mal de leur travail. Domestique, enfin de domestique, de servante, etc., parce que c'est un travail qui n'est pas réglementé. Mais néanmoins, il y a toute une projection fantasmatique sur cette figure qui partage aussi des éléments avec les femmes publiques, à savoir que c'est une femme qui est considérée comme stérile. Elle est considérée comme stérile, elle est belle, elle est jeune, et elle exerce une certaine indépendance. Hein, c'est aussi une figure à l'inverse de l'épouse soumise, etc. Et donc, cette figure est massivement représentée et il est parfois très difficile de la distinguer hein, dans sa matérialité graphique d'autres figures qui sont donc véritablement ces figures de mode, los figurines. Non donc, parfois, c'est seulement la connaissance du support iconographique qui permet de différencier ce qui serait une figure de mode d'une cocotte boulevardière, d'une carrerista. Et parfois, en fait, il est tout à fait impossible de faire le départ entre ces deux figures. C'est le cas en particulier de nombre de représentations féminines de la main de Mendes Bringa, qui est un grand illustrateur de la fin du siècle. Donc, premier exemple ici. Et deuxième exemple ici, évidemment, le regard, hein, puis le décor permet ici de connaître cette figure. Et parfois, vraiment, on ne sait pas, hein, comme dans cette gravure, hein, para ustedes, c'est-à-dire on ne sait pas. Donc c'est un corps image, c'est un corps marchandise, c'est un corps offert, gravure de mode pour à collectionner, carrerista, il est très difficile de faire la différence. Au cours du siècle, la consommation donc, connaît un formidable essor. Le nouveau commerce se met en place avec l'apparition des vitrines hein, qui reproduisent donc, la mise en spectacle, la marchandisation. Et on a un certain nombre de scènes qui sont des scènes de stéréotypes. Attends, je vais vous laisser quand même de stéréotypes. Acheter devient une nouvelle forme de loisir, comme aller à une exposition. Comme le montre Laker, ces nouveaux usages reposent sur une figure de consommateur-consommatrice qui tient les conventions et les statuts à distance. Et comme je l'indiquais, il y a une scène qui devient un cliché. Hein. Le corps féminin de la cocotte boulevardière est partie prenante dans le processus. Et donc on voit qu'il y a tout ce dispositif hein, de spécularité où la femme devient à la fois capitale et fétiche. Je reviendrai peut-être sur ces images. Encore un exemple. Le corps représenté, standardisé massivement, n'a plus aucune épaisseur sociale. C'est bel et bien donc, le corps de Phryné, hein, Phryné, cette étaillère grecque, qui vivait de ses charmes et dont la représentation est très importante au 19e, en particulier dans ce moment hein, où, en plein procès d'appiété, l'avocat de Phryné décide de découvrir ses charmes et la sauve d'une condamnation. Phryné donc saisie dans ce moment est saisie donc dans l'équivalence entre beauté et vérité. Elle n'est qu'un corps, un corps marchand, une équivalence hein, entre la beauté, le corps capital et le corps fétiche. Jean Baudrillard, donc dans l'ouvrage La société de consommation, hein, duquel j'ai tiré ce terme frinéisme, indique « La beauté est devenue pour la femme un impératif absolu religieux. Être belle n'est plus un effet de nature, ni un surcroît aux qualités morales, c'est la qualité fondamentale impérative. » Il écrit ça donc, dans les années 70. Pour nuancer, nous pourrions souligner en conclusion que cet impératif de la beauté est ancien, très ancien, enfin ancien, et c'est parce que le marché de la mode s'est d'emblée articulé à un discours essentialisant de la beauté aux fins de procréation que les stéréotypes et injonctions sur le corps féminin sont encore si présents aujourd'hui. La standardisation corporelle et la projection d'un genre féminin doit beaucoup à l'archéologie de sa matérialité graphique. Merci.